sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Vous pouvez vous asseoir. La séance est ouverte. Madame le député européen, monsieur le chancelier de l'Institut, monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, madame le procureur de la République, madame la présidente de la section de l'Intérieur du Conseil d'État, monsieur le conseiller représentant le ministre de la Culture, chers collègues membres de l'Institut, madame la directrice générale de la FEMIS, monsieur le président de l'Institut français, chère Chantal de France, chère Patricia Schandorfer, chère Geneviève de Gallard, mesdames et messieurs les présidents et directeurs, mesdames et messieurs les conseillers, messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs en vos titres et qualités, mesdames et messieurs, et si vous le permettez, chers amis, je vous souhaite la bienvenue au Palais de l'Institut de France et je vous remercie de votre présence aujourd'hui sous cette coupole. Je passe, sans plus attendre, la parole à notre secrétaire perpétuel, Laurent Petit-Gérard.
Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, avant de vous dire un mot, permettez-moi vraiment, je crois, au nom de tous, de saluer la présence de Madame Geneviève de Gallard, parce que le jour où nous allons évoquer, grâce à Colline Serrault, la mémoire de Pierre Schandorfer, cette extraordinaire héroïne de notre République qui a vécu cette aventure extraordinaire et tellement courageuse en Indochine, et qui est aujourd'hui venue témoigner, je voulais vraiment vous dire, Madame, toute notre admiration. Merci beaucoup. Au cours de cette séance, Madame Colline Serrault, ça m'amuse toujours de dire Madame Colline Serrault, parce que c'est évidemment pour nous l'éternelle Colline, qui a été élue le 25 avril 2018 au fauteuil de notre regretté confrère et ami Pierre Schandorfer, sera officiellement installée comme membre de la section des créations artistiques dans le cinéma et l'audiovisuel de l'Académie des Beaux-Arts. Notre protecteur, le président de la République, ne pouvant malheureusement pas assister à cette séance, Emmanuel Macron m'a chargé, ce que je fais avec plaisir, de transmettre ses plus chaleureuses félicitations et celles de son épouse Brigitte Macron à Colline Serrault.
Merci. Vous avez choisi, cher Colline Serrault, notre confrère Hugues Gall de la section des membres libres pour vous recevoir sous cette coupole. C'est donc lui que j'appelle maintenant à rejoindre la tribune. Chers confrères, vous avez la parole.
Merci, cher Président. Madame, en vous élisant, notre perpétuel vient de le rappeler le 25 avril 2018, au fauteuil de Pierre Schandorfer, notre compagnie a-t-elle pris toute la mesure du danger ? Vos pères de la section créations artistiques dans le cinéma et l'audiovisuel, cher Colline Serrault, savaient eux ce qu'ils faisaient en vous proposant à nos suffrages. Le contraste ne leur a jamais fait peur, du moins pas récemment. La surprenante généalogie que votre arrivée crée entre le crabe tambour et trois hommes et un couffin n'étaient pas faites pour nous rebuter, bien au contraire. Naguère ou jadis, que vous voudrez, nous avions raté Claude Monet, et avec lui, le coche des impressionnistes. Il n'était donc pas question de manquer Colline Serrault, notre ADN revitalisé exigeait cette forme de rédemption. Vous n'êtes pas non plus la première femme à être élue dans notre compagnie. Jeanne Moreau vous y a précédé en ouvrant une brèche glorieuse dans un bastion qui tardait à s'ouvrir. Depuis, d'autres grandes artistes, sculptrices, graveuses, comédiennes, femmes de théâtre, chorégraphes, compositrices, vos nouvelles consoeurs sont venues nous permettre d'avancer vers une parité qui aurait dû s'imposer depuis longtemps. Non, le danger dont j'ai pris conscience en assemblant pour cette esquisse les tesselles qui dessinent la mosaïque des engagements qui sont la marque de vos actes, de vos œuvres, bref, de tout ce qui constitue votre vie, ce danger est d'une autre nature. C'est qu'avec vous, nous sommes en présence d'une missionnaire, animée de cette force de conviction, de cette flamme, de ce courage enfin, qui font les vrais révolutionnaires, les plus dangereuses sans doute, Vera Zasulich, Rosa Luxembourg, peut-être un peu beaucoup, mais voire. Une manière de Cassandre, en tout cas, de celle qu'on ne croit pas, un peu pitié aussi, mais une pitié dont les oracles, vos pièces, vos films, vos écrits, vos déclarations sont d'une aveuglante clarté. Ils n'exigent ni aruspice, ni exégète, ni que vous vous appliquiez à mâcher sur le trépied de Delphes les branches d'olivier dont vous êtes aujourd'hui revêtu. Vos racines familiales sont l'une des clés de votre œuvre. Elles ont été confortées par votre éducation à Dieu le Fit, dans l'école de Beauvallon, au lieu d'expérimentation des pédagogies nouvelles. Cette école était dirigée par trois fées, trois femmes remarquables, Marguerite Soubéran, Catherine Kraft, votre marraine, et Simone Monnier, la sœur de votre mère. Là, vous respirez le plus naturel des protestantismes, rigoureux, ça va sans dire, mais le plus humain aussi, celui de vos ancêtres, parmi lesquels on compte d'innombrables ministres de la religion réformée. Ce gynécée vous marque pour la vie, d'autant que votre père, Jean-Marie Serrault, célèbre pour avoir été le découvreur des grands auteurs de l'après-guerre, Beckett, Brecht, Ionesco, Vinaver, Genet, Aimé Césaire, Kateb Yassine, grand metteur en scène avant-gardiste, ce père que vous adorez, vous avez abandonné votre mère, votre frère, vos frères, votre sœur et vous-même pour dédier toute son énergie, toute son affection et tout son talent à la défense de ses chers auteurs et de vos œuvres, et de ses œuvres, pardon. Je disais pitié. À toute pythonisse, il faut un dieu. Ce dieu, votre Apollon, c'est lui qui vous dictera tant de prédictions que vous énoncerez plus tard sur la scène, par l'écriture, en musique, au cinéma, dans la direction de chœur. Ce dieu caché, vous l'avez découvert dès l'enfance, ou presque, dans une fréquentation goulue des œuvres de Sigmund Freud, de Grodeck, de Ferenczi, ou dévoriez à l'âge, ou d'autres, j'en suis, lisaient La semaine de Suzette. Cependant que votre mère, Geneviève Serrault, écrivaine, éditrice de Barthes, de Sarraute, de Miller notamment, traductrice de Gombrowicz ou de Brecht, votre mère collaborait aux Lettres Nouvelles avec Maurice Nadeau. Ah, comme elle semble lointaine, l'époque où les petites filles lisaient la Comtesse de Ségur, les Malheurs de Sophie et les Beaux Contes dans la Bibliothèque Rose, qui au miroir de la psychanalyse ont fini par se révéler à leur tour, plus que fantasmatiques et riches de délicieux complexes. Vous aviez 7 ans, et déjà, votre mère vous emmenait à toutes les générales de théâtre. Rien ne vous passionne plus que le jeu des acteurs, les mises en scène, les lumières, les décors, l'écriture. Le métier s'empare de vous, c'est l'atavisme. Vers 13 ans, vous devenez un rat de cinémathèque. Le Champeau, le Champollion, remplace pour vous souvent la salle de classe. Vous lisez un livre par jour, dites-vous. Vous vous plongez dans la philosophie, dans celle des théoriciens marxistes, des sciences humaines, la littérature russe, la Bible, que sais-je encore. Mais où diable sont donc Labiche, Feydeau, Sacha Guitry, les chers Flers et Caillavé, et surtout eux, avec leur habit vert? On veut croire pourtant que Molière n'est pas absent de votre univers de petite fille surdouée, et puisque vous entrerez un jour, après un brillant passage rue Blanche, à la Comédie française, en qualité de stagiaire. Vous n'y resterez pas, mais vous aurez fait un passage remarqué. Ni jeune première, ni vraiment comique, votre destin semble alors hésiter. Heureusement, mai 68 viendra trancher, en vous distribuant dans un rôle digne de vous, responsable du comité d'action au centre de la rue Blanche, et puisque vous êtes inscrite aussi au Conservatoire national de musique de la rue de Madrid, vous cristalliserez en vous tout ce qu'il y a de ferment révolutionnaire dans ces deux vénérables écoles. Car, j'allais l'oublier, vous êtes, chère Colline Serrault, musicienne, organiste, élève de Jean Langlais à la Scola Cantorum. Vous êtes pianiste depuis l'enfance, guitariste classique, aussi élève de Norbert Dufourcq en classe d'histoire de la musique. Est-ce lui, ce pape de la musicologie, qui vous révèle le génie de Pierre de Jeter, dont la superbe mélodie a immortalisé l'International, l'hymne que nous chantons tous d'Eugène Potier? On peut en douter. Jamais la musique ne vous quittera. De Jeter sans doute, mais surtout, toujours et partout, Jean-Sébastien Bach. Pas de journée dans votre vie sans un choral, sans une fugue du grand cantor, joué le matin à votre piano, à jeun, avant ou après votre café, qui lui inspirera une célèbre cantate. La musique, votre seconde langue, peut-être même la première, vous en ferez un bien bel usage. Mesdames, Messieurs, mes chères consoeurs, mes chers confrères, la voici donc sur les barricades avec l'International à tue-tête et les variations Goldberg dans le cœur. Dangereuse, vous dis-je. Mais à l'Odéon, au Quartier Latin, c'est un feu follet rouquin, le vibrionnant Daniel Cohn-Bendit qui vous vole la vedette. Ni Victor Hugo, ni Delacroix, ni Robert Capa, ni Doineau, encore moins le journal télévisé, ne sont là pour vous immortaliser, vous. Décidément, c'est bien ce monde d'hommes qu'il vous faut renverser plus tard. Vous prendrez votre revanche, on le verra et comment. D'ailleurs, la seule tirade de Maria Pacôme, la mère de famille, dans La Crise, votre film devenu culte, comme on ne devrait pas dire ici, sera en soi une vengeance à large spectre. Pourtant, la photographie était déjà devenue l'une de vos passions. Le précieux Nikon a trois objectifs, seul cadeau de votre père, n'avait pas chômé pendant ces chaudes journées. L'histoire ne dit pas le nombre d'instantanés que vous avez pris de ces événements, non de vous-même, mais de vos camarades engagés dans la lutte finale, bien sûr. Vous continuez à prendre des centaines de clichés, dont certains retravaillés par le peintre, pardon, par la peintre qui s'est révélée en vous, sont, comme vous les nommez, des photopeintures poétiques et tragiques. Voilà un nouveau panneau sur l'étonnante iconostase de vos foisantes créations. Mais c'est le théâtre qui forme l'axe de votre vie, celui autour duquel tout s'ordonne. Vos années à l'école de cirque d'Annie Fratellini font de la comédienne que vous êtes une trapéziste aussi. Oui, une virtuose du trapèze en grand ballant. Vous y faites preuve d'un courage, d'un goût du risque, d'une maîtrise du rythme, d'un contrôle du souffle tel que vos spectateurs sidérés voudraient pouvoir les partager. C'est pour vous une école de vie. Je lève les yeux. Je ne vois pas que l'on ait équipé aujourd'hui notre auguste coupole des agrès indispensables à une démonstration de votre part. Dommage. On l'a compris, rien de ce qui est spectacle ne vous est étranger. Théâtre, cirque, mime, images fixes ou animées, cinéma et musique, toute la musique, composition, interprétation, chant. À ce moment de mon discours, comme j'aimerais pouvoir vous dire, madame, que tel celui de l'Agamemnon d'Offenbach, votre nom seul me dispense d'en dire plus long, car il y en a tant et tant de hauts faits dans votre guerre de Troie. Or, votre patronyme est déjà fameux, j'allais dire préempté par vos parents. Mais ce sont surtout les multiples facettes d'une œuvre aussi diaprée qui m'interdisent un tel résumé. Comme il serait frustrant, en effet, de ne pas rappeler, de ne pas dévoiler tout ce que vous nous apportez dans une musette qui ne cesse de se remplir. Avec vous, on l'a vu, c'est une comédienne, une actrice qui rejoint notre troupe, pardon, notre compagnie. Avec vous, c'est Shakespeare et la Rosalinde de Comme il vous plaira, c'est Brecht et son cercle de craie caucasien, celui de la cour carrée du Louvre, de la cour carrée, pardon, du Palais des Papes d'Avignon, mis en scène aussi, lui aussi par le grand Benoît Besson, le spectacle aux Trois Molières. Avec vous, c'est Molière, l'école des femmes. Oui, l'école des femmes, non pas Agnès. Le souvenir d'Isabelle Adjani dans ce rôle, ce n'est pas celui qui vous aurait retenu, non, en 2006. Mais pour le Théâtre de la Madeleine, vous dont la sûreté dans la distribution des emplois, dans l'art du casting sont bien connus, vous préférez vous confronter à quelques lustres de distance au souvenir inoubliable de Louis Jouvet et incarner le ridicule, le tragique, l'émouvant Arnolphe. Le souvenir de votre miraculeuse mise en scène du Barbier de Séville à l'Opéra Bastille en 2002 et de son Bartolo aveuglé, stupide, méchant et pitoyable, vous aura sans doute suivi 4 ans plus tard. Le souvenir aussi du triomphe de votre, j'allais dire, de notre Rosine, où a explosé la carrière mondiale désormais de Joyce Di Donato. Mais ne brûlons pas les étapes, si toutefois l'on peut parler d'étapes en ce qui vous concerne, madame. C'est un grand polyptyque dont les panneaux proches ou éloignés s'ordonnent tout autour du centre que le regard doit embrasser tout entier. En son cœur rayonne votre agneau mystique, celui de votre mission rédemptrice, de votre combat pour l'homme, pour la femme, de votre lutte contre toute manifestation du patriarcat sous toutes ses formes d'oppression. Cette mission dont vous vous êtes investi et qui éclaire votre œuvre, c'est le combat contre l'injustice, pour la liberté, en faveur de toutes les libérations, de toutes les résistances, pour la nature, pour l'environnement. Car vous n'avez pas attendu la création d'un secrétariat d'État à la condition féminine par Valéry Giscard d'Estaing en 1974, pas davantage que celle d'un ministère de la protection de la nature ou de l'environnement par Georges Pompidou en 1969. Ces idéaux vous habitent depuis vos années d'apprentissage, on l'a vu dans la Drôme. Ce sont ceux de vos ancêtres protestants, les Ballois, les Bernoulli, banquiers et mathématiciens, ceux aussi de vos parents, séparés, mais porteurs tous deux de cet idéal, la révolution par le théâtre, mais surtout par les lettres. Tout s'ordonne alors de la manière la plus cohérente dans votre vie et dans vos actes. Le théâtre, bien sûr, comédienne, on l'a vu, mais déjà auteur. Vous travaillez d'abord avec Romain Bouteille, vous écrivez, vous signez avec Coluche son premier spectacle, Thérèse est triste, quel début. Et puis le cinéma est là, ante portas, avec en 1971 votre premier scénario pour On s'est trompé d'histoire d'amour, un long métrage réalisé par Jean-Louis Bertuccelli. En 1975, c'est votre premier film. Vous êtes la réalisatrice de « Mais qu'est-ce qu'elles veulent ?». Le thème en est « La condition féminine », le film reste en salle plus d'une année. Ensuite, tout s'enchaîne presque naturellement, non sans les chaos que connaît toute aventure cinématographique. Ces aléas, vous les surmontez, ce sont successivement « Pourquoi pas ?», votre deuxième film en 1977, puis en 80, « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?», une satire du monde de la publicité. Jusqu'à 1987, l'année du triomphe de trois hommes et un couffin, que nul n'a oublié, ni vos producteurs, ni vos distributeurs, ni bien sûr vos spectateurs, enchantés par cette comédie fable, si pertinente, si enlevée. Vos 12 millions d'entrées sont une réponse cinglante à ceux de vos censeurs pisse-vinaigre, qui pensent sans doute, comme le metteur en scène de Tempête, votre prochain film, je le cite, « On n'est pas là pour amuser la galerie, si je commence à faire rire les gens, je perds mes subventions. » La guerre inexpiable entre théâtre public et théâtre privé se trouve résumée en une phrase. L'aventure de trois hommes et un couffin sera saluée par trois Césars, meilleur film, meilleur scénario, meilleur second rôle pour Michel Bougenat, et par des nominations aux Oscars, aux Golden Globes comme meilleur film étranger. Enfin, Disney en a produit un remake, Three Men and a Baby, dont vous réalisez le scénario. Le film remporte aux États-Unis d'Amérique un succès équivalent au film français. Dès lors, vous ne vous arrêtez plus. Vous réalisez des films dont les scénarios sont tous de vous. Il faut citer Romuald et Juliette et La Crise, César du meilleur scénario en 1992. La scène de la mer, celle que Maria Pacaume a marqué pour toujours de son grand talent, est un manifeste, elle est devenue un classique. Cet hymne à la libération de la mère de famille est vu, revu chaque jour par des milliers de cliqueuses ou de likers, vengées ou ravies. Mais sans doute sont-ils encore plus nombreux à se reconnaître dans la scène dite du rétroviseur. Une scène devenue mythique, elle aussi, ou comme on dit aujourd'hui, virale, c'est dans La Belle Verte, un film dont les débuts ont été lents, mais qui, prémonitoire, dénonçait les dérives climatiques et la sottise des hommes. Admirable, admirable ce dialogue hurlé entre Francis Perrin et Vincent Lindon. Oui, admirable comme ce mot interdit ici, mais que je ne résiste pas à citer, puisqu'il est de vous, connard ! Comme ce mot claque dans la bouche de Perrin, c'est sans doute, madame, grâce à vous, pour lui, ce soir, une vraie première sous cette auguste coupole. Votre filmographie ne se résume pas à ces scènes d'anthologie avec Chaos en 2001, puis Saint-Jacques-la-Mecque en 2005, mais aussi avec Solution pour un désordre global en 2010, Tout est permis en 2012 ou encore Couleur locale en 2014, se poursuit votre croisade pour la femme, pour l'environnement et contre les méfaits du patriarcat. Enfin, en 2015, à l'occasion de son entrée au Panthéon, vous rendez hommage au grand résistant Pierre Brossolette par un film portrait qui ne relève pas, lui, de votre imaginaire, un document bouleversant diffusé le jour même. C'est votre tribut à la résistance qui a été pour les vôtres, dans la Drôme notamment, Adolphe, un engagement total de tous les instants. Ce film, vous l'avez écrit avec Samuel Tazinage, qui couvre par ce pseudonyme, son patronyme, la Bible. Un auteur que vous connaissez bien, puisqu'il est avec Madeleine et Nathanaël, Nathalie Besson, l'un de vos trois enfants, vous les aimez, ils sont tous les trois doués comme vous les avez enfantés, leurs scripts ne sont-ils pas un peu de vous ? En ai-je fini ? Non, pas vraiment. L'auteur qui ne sommeille jamais en vous a mis en scène, écrit, joué plusieurs pièces au succès français et mondiaux. C'est d'abord Lapin Lapin au Théâtre de la Ville, puis à la Porte Saint-Martin, en tournée, en Suisse, puis traduite en Scandinavie, en Italie, mais surtout en Allemagne, où sous le titre Hase Hase, 250 productions différentes ont été données à ce jour et encore récemment à Berlin. Puis, qui sait tout et gros bêta, à Paris, cela vous vaut 5 Molières, la pièce reste à l'affiche pendant 3 saisons pour quelques 500 représentations en France, puis partout en province et en Europe. Et c'est encore le salon d'été qui lui reste 6 mois au Bouffe parisien et 6 mois en tournée. Dans la liste si riche de vos activités, il y avait pour moi un mystère qui m'avait longtemps interrogé et intrigué, la chorale. Vous dirigez une chorale, la chorale que vous dirigez d'une baguette toute de douceur et d'énergie, au service des grandes œuvres, cette chorale, si prolixe, près de 70 concerts par an donnés partout en région, à Paris, dans la Drôme bien sûr, chez vous, où vous la réunissez dans votre caravansérail, cette chorale s'appelle la chorale Delta. Delta, oui, pourquoi Delta ? Un hommage caché au grand mathématicien Bernoulli, votre ancêtre, l'homme du théorème. Delta, pour diaphora, cette différence de traitement entre les sexes que vous voulez abolir. Delta, celui du Danube, le fleuve qui traverse tant de capitales musicales, ou Delta du Nil, le fleuve des fleuves. Peut-être un peu de tout cela. Je me perdais en conjectures. Mais comme souvent avec vous, les oracles ne sont pas des rébus. Lorsque nous avons eu à travailler sur des projets dont je parlerai, nous nous sommes retrouvés chez vous, pour la première fois pour moi. Alors, les écailles me sont tombées des yeux. Opportunément, bien sûr, vous habitez rue du Delta. Votre chorale s'y réunit, elle en a pris le nom. C'est simple comme Céro. Je n'avais pas tout vu, des innombrables manifestations d'un talent où musique et théâtre se mêlent si heureusement, mais j'en avais découvert assez pour rêver de vous embarquer, chère Colline, dans une aventure nouvelle pour vous, celle de l'opéra. Deux spectacles magiques sont nés alors pour l'Opéra Bastille et pour son directeur. En 2002, votre Barbier de Séville, qui sera donné et repris 8 fois pendant 9 ans, applaudi, trop acclamé sans doute. Il sera remplacé récemment par une nouvelle mise en scène dont on dit hélas qu'on me dit du bien. Sic transit, on n'oubliera pas de sitôt les moucharabiers du sérail andalou de votre Bartolo, ni la burqa, ni la virtuosité de Rosine, ni la poésie des décors de Jean-Marc Stélé, dont les transformations à vue relevaient de la prestidigitation, pardon, et arrachait au public émerveillé les applaudissements qui couvraient la musique de Rossini. Vous étiez fait la main, en vérité, en 2000, pour saluer le siècle nouveau, avec la chauve-souris, Fledermaus. Vous faisiez entrer avec fracas ce chef-d'œuvre au répertoire de l'Opéra de Paris. Votre complice, le grand chef Armin Jordan, vous a accompagné, soutenu jusque certains des partis pris d'une approche qui se refusait à réduire cet épitomé de la Vienne impériale au divertissement léger que l'on en fait souvent. Pourtant, chez vous, ni barbelé, ni mirador, ni gardien de prison en Obersturmbannführer SS, tout était dit dans une diffusion chorégraphique à l'antisémitisme, une allusion très forte, mais très subtile, à l'antisémitisme ambiant dans la Vienne de ce temps-là, mais surtout dans le déchaînement d'un ballet débridé à l'acte du prince Orlovski, prince décadent comme l'empire de François-Joseph, malade comme lui, sous perfusion comme lui, cherchant à tromper son ennui, non par les usuelles interventions de stars du chant ou de virtuoses de la musique, conviées à la fête, mais par l'irruption d'une troupe de rappeurs et de mimes dont vous m'aviez facilement convaincu de les engager. Des talents remarquables que vous aviez découverts, ce ne sont pas les seuls qui vous doivent une partie de leur brillante carrière, et certains d'entre eux, comme James Thierry, se sont depuis installés au firmament. Cette inclusion surprise de rappeurs d'une loufoquerie déjantée, ce duo clownesque, une vignette chaplinesque, je ne résiste pas à les faire revivre ici pour vous. Mes chers consoeurs, mes chers confrères, j'y vois une manifestation puissante et une manière de conjurer par le rire dont vous savez, chère Colline, être souvent généreuse, les craintes que votre arrivée parmi nous ont pu susciter chez certains. Castigat ridendo, c'est aussi votre méthode. Entrons donc, si vous le voulez bien, chez le prince Orlovski.
Thank you.
un danger. Vous, Colin Serrault, oui, un danger d'autant plus grand que vous êtes comme l'hydre à 100 têtes, pleine de talent, de charme, d'intelligence, combien séduisante aussi. J'ai, piètre Hercule, renoncé ici à vous vaincre, et j'aimerais plutôt, tel Orphée, avoir su, sinon vous endormir, mais du moins vous charmer l'espace de cette réception, et même pour toutes les années à venir, et il y en aura, il y en aura. Vous savez désormais, car vous avez pu vous en persuader depuis plus d'un an que vous êtes des nôtres, vous savez que nous ne sommes pas une assemblée de burgraves, dominateurs ou racornis, ni les incarnations du mal absolu à vos yeux, je veux parler du patriarcat. Nous vous avons élu, madame, cher Colin Serrault, et nous sommes fiers de vous voir installée parmi nous. Soyez-y heureuse, immortelle que vous êtes désormais, et surtout, surtout, oui, surtout, continuez là votre lutte, car elle est aussi la nôtre, ici dans cet éther où vous nous rejoignez. Votre lutte ne connaîtra pas de fin.
Merci, chers confrères. Mesdames et messieurs, l'usage et les statuts de notre compagnie veulent que chaque nouvel académicien prononce l'éloge posthume de son prédécesseur et rappelle ainsi sa vie et son œuvre. Cher Colin Serrault, je vous invite maintenant à rejoindre la tribune pour rendre hommage à notre regretté confrère Pierre Schandorfer. Vous avez la parole.
Merci Hugues pour ce discours touchant et quelquefois en regardant en arrière, je suis fatiguée pour moi-même. Mais je me suis beaucoup amusée dans ma vie en fait. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie d'être venus ici aujourd'hui et surtout en ces temps de galère, de transport. Ça, c'était pas écrit dans le discours normalement. Mais vraiment, je vous remercie parce que je sais que ça a été compliqué pour beaucoup d'entre vous et c'est extrêmement gentil à vous d'être venu ici. Alors, c'est la famille, c'est les amis, collègues, techniciens de cinéma, acteurs, musiciens, choristes, amours anciens ou présents, amis et famille de Pierre Schandorfer, que je salue ici. Je suis très heureuse de vous sentir près de moi dans cette cérémonie qui va me rattacher à une compagnie dont je mesure avec gratitude, depuis plus d'un an que je la fréquente, la bienveillance à mon égard, la haute qualité artistique et dont je me réjouis chaque mercredi de la retrouver pour discuter de nos métiers, divers en apparence, mais semblables dans leur essence, métiers auxquels nous avons consacré nos vies et que les académiciens défendent avec passion et générosité. Et j'ajoute, ce qui n'est pas dans le discours, que tout à l'heure, avant d'arriver ici dans la bibliothèque, on rigolait, mais ils ont un humour vraiment formidable. Ça se voit pas peut-être là, mais ils sont extrêmement drôles. Ils sont très drôles. Je les adore. Voilà. Alors je vais maintenant vous parler de celui au fauteuil duquel je succède, Pierre Schandorfer. C'est un honneur de parler de Pierre. Pierre est un cinéaste dont l'on pourrait croire que l'œuvre est à l'opposé de la mienne. Moi, fille de militants, de résistants, purs et durs, qui ont commencé leur jeune vie d'adulte par le soutien aux républicains espagnols contre Franco, puis sont entrées en résistance contre les nazis. Les trois femmes qui m'ont élevée, comme l'a dit Hugues tout à l'heure, sont aujourd'hui au Panthéon au titre des justes parmi les nations, car ayant sauvé de nombreux enfants juifs à Dieulfi dans la Drôme. Ensuite, mes parents se sont insurgés contre la guerre d'Algérie, guerre d'occupation coloniale. Ils ont soutenu très concrètement la résistance algérienne. Ma mère a été inculpée par l'État français pour trahison, car elle était signataire du manifeste des 121, avec Simone de Beauvoir, Roger Blin, Pierre Boulez, André Breton, Michel Buteur, Daniel Delorme, Marguerite Duras, Claude Lanzmann, Jérôme Lindon, Dionis Mascolo, François Maspero, André Masson, Maurice Nadeau, Alain Resnais, Alain Robbe-Grillet, Françoise Sagan, Nathalie Sarraute, Jean-Paul Sartre, Claude Sautet, Simone Signoret-Siné, Laurent Terzieff, François Truffaut, Vercors et tant d'autres. C'était des gens courageux et qui, voilà, ils étaient nombreux. Mon père fut menacé de mort par les bombes de l'OAS parce qu'il montait au théâtre Récamier en pleine guerre d'Algérie, Nejma, du poète Kateb Yassine, qui dénonçait la torture et les massacres de Sétif en 1945. Puis, mes parents et moi-même, comme lycéennes, avons lutté contre la guerre d'Indochine au sein des comités Vietnam dans les années 60. Et nos combats ont continué en 68 pour la libération de l'avortement et de la contraception, puis contre la dictature stalinienne, ma mère ayant participé activement à la publication des auteurs dissidents soviétiques du groupe des Samizdat, Anna Akhmatova, Boris Pasternak, André Sinyavski, Yuli Daniel, etc. Et tous ces combats se sont trouvés justifiés par l'histoire. Victoire de la résistance, du FLN algérien, fin de Franco et avènement de la démocratie en Espagne, libération des colonies françaises, vote de la loi Veil, fin du régime stalinien. Et me voici devant vous, à devoir faire l'éloge de Pierre Schoendoerffer, dont on pourrait penser qu'il faisait l'apologie de la guerre. Cela aurait pu être un exercice difficile, et pourtant c'est avec un immense plaisir que je vais ici parler de cet homme que je n'ai croisé qu'une fois, dont l'œuvre ne nous parle en fait que de terre et d'humanité, de nation aussi, dont toute l'histoire me touche extrêmement profondément. J'ai rencontré Pierre et Patricia, son épouse, lors d'un festival de cinéma, et ni Patricia ni moi, on a cherché pourtant, ne parvenons à nous rappeler où ni quand. Mais le souvenir de deux jours délicieux passés avec eux reste vivace en moi. J'ai trouvé, moi qui me suis toujours sentie une étrangère dans les grands messes du cinéma, j'ai trouvé ce jour-là, en Pierre et Patricia, deux ovnis aussi décalés que moi, des personnes tendres, joyeuses et pleines d'humour. Nous avons passé du temps ensemble à rire, à manger, à se raconter des blagues et des histoires. Pierre me disait, avec son charme provocateur et son sens de l'autodérision, « Vous savez, moi, je ne suis qu'un cinéaste de guerre. » Et moi de lui répondre « Peut-être, mais en tout cas, vous n'êtes pas un homme de guerre. » Le cœur de sa souffrance fut la perte trop précoce d'un père admiré, dont, jeune adolescent, il avait encore tant besoin. Ce chagrin a marqué le départ d'une œuvre où Pierre Schoendoerffer, à travers des récits de guerre, aura recherché la fidélité à des valeurs et témoigné de la solidarité d'une fratrie en constante proximité avec la mort. Alors Pierre naît le 5 mai 1928. Son père est protestant et alsacien. Comme beaucoup d'Alsaciens, il avait la France dans le cœur. Il a une enfance itinérante au gré des postes de son père ingénieur centralien. Il est le quatrième enfant d'une fratrie de cinq. Il dit « Je suis d'une génération née après la Première Guerre mondiale. Le père de ma mère, qui avait fait la guerre en 1870, s'était réengagé volontaire en 1914 pour avoir sa revanche sur les Allemands. Et il est mort en 17 sur le chemin des Dames. Ma mère est devenue pupille de la nation. Mon père, quant à lui, est revenu vivant de la guerre de 14, mais très malade, car il avait été gazé. Pendant la Seconde Guerre mondiale, nous avons subi les bombardements à Annecy. Mon père souffrait beaucoup des poumons. En effet, son père meurt des suites de la guerre, les poumons détruits, dans de grandes souffrances qu'il cache à ses enfants. Pierre devient pupille de la nation, comme sa mère l'avait été. Cette mère, une femme forte, aimante, fait toutes sortes de métiers pour s'en sortir et élève seule ses 5 enfants. Pierre a des difficultés scolaires. Il est dyslexique. Il dit « J'ai perdu mon père, très jeune, à 15 ans, et je me suis cherché depuis des pères de substitution. J'en ai trouvé dans l'armée, quelques lieutenants ou capitaines, mais surtout dans les livres. Ce furent Sandrard, Conrad, Melville, Jules Verne, Stevenson. Ils m'ont servi de point de repère dans l'archipel de la vie et de la littérature. Je n'ai pas cherché à les imiter, à rester dans leur sillage, mais ils représentaient ces phares, balises, clochers d'église qui, lorsque vous naviguez, vous évitent de faire naufrage. » Pierre découvre le roman de Joseph Kessel, Fortune carrée, c'est un choc. Pour lui, qui n'avait jamais vu la mer, c'est le chemin de la vraie vie. Ma situation scolaire avait touché le fond. Dyslexique, sans orthographe, j'étais un ignare absolu. Je voulais naviguer. En 47 à 18 ans, il se présente à l'examen d'entrée de l'École nationale de la marine marchande, mais il échoue. Alors il s'embarque comme matelot léger sur un cargo suédois. Il va naviguer ainsi pendant 18 mois, essentiellement en mer Baltique et en mer du Nord. Et puis, il dit, un soir, je rêvassais à la barre et je me suis dit que j'avais envie de raconter des histoires. Vu mon niveau scolaire, l'écriture était exclue. J'ai décidé de faire du cinéma. Au début des années 50, il revient en France pour son service militaire et il traîne dans les maisons de production. Mais le cinéma, dit-il, c'est le château de Kafka. Il faut être à l'intérieur pour y entrer et pour être à l'intérieur, il faut y entrer. Alors il lit un article dans le Figaro qui évoque la figure d'un reporter du service du cinéma des armées qui vient de mourir au combat. Alors il se porte volontaire pour l'Indochine. Il passe un test pour entrer dans le dit service. On l'enferme dans une chambre avec une caméra et il se débrouille, tant bien que mal. Mais tout de même lucide sur la réalité de ses compétences, il va voir le vieux Chevreau, loueur de caméras, dont tous les cinéastes de notre génération se souviennent. Un homme généreux, toujours prêt à aider les jeunes. Et il dit à Chevreau, Pierre, « Je suis prêt à balayer vos hangars, mais je voudrais pouvoir tripoter des caméras, voir comment ça marche. » Ainsi, avec un vieux réparateur de caméras, Pierre apprend en détail ce qu'il y a dans le ventre de cet outil magique. À l'époque, il n'y avait pas d'informatique dans les caméras, que de la mécanique, ce qui en faisait des outils tout-terrain. Arrivé au Vietnam, il rencontre Raoul Coutard, qui devient son ami et plus tard son chef opérateur pour presque tous ses films. Pierre assiste à la grande bataille de Dien Bien Phu, mais il n'a pas le temps de filmer beaucoup. Il est très vite blessé à la jambe et évacué. À peine rétabli, il se fait de nouveau parachuter dans la bataille. On lui demande pourquoi. Il répond « Parce que c'était la grande bataille, c'était la fin. C'était un raisonnement passionnel, pas rationnel. Les gens m'ont dit « Mais n'y va pas, c'est foutu !» Et j'ai dit « Mais il faut que j'y aille, qu'il y ait un témoin. » Il écrit « Le silence merveilleux d'une descente en parachute dans un air bien porteur était déchiré par le méchant claquement des balles. Au sol, c'est l'artillerie qui nous prit à partie. La plaine était jaune, les collines rougeâtres, et plus loin, la ligne bleue des montagnes tremblait dans la chaleur. La rizière sur laquelle on nous avait balancés sans cérémonie était poudreuse et grise. Un peu de noir, un peu de noir aussi, ça et là, dans les flaques de sang séché, au milieu d'un bric-à-brac de douilles, de casques percés, de pansements souillés, de bidons cabossés. Même dans les pires moments de la bataille, Pierre mêle à sa compassion la vision d'un peintre, d'un poète. Le 7 mai 1954, Dien Bien Phu tombe. Je n'ai jamais vu autant d'hommes pleurer. Certains se cachaient, d'autres n'en avaient rien à foutre qu'on les voit pleurer, pleurer de désespoir. Il est fait prisonnier. Il reste 3 mois et 20 jours en captivité, avec de terribles séances d'autocritique et un seul bol de riz par jour. Plus des deux tiers des prisonniers de Dien Bien Phu n'en sont pas revenus. Pierre survit à l'épreuve de cette dure captivité. Il dit « La captivité, c'est l'envers de l'aventure. Ce n'est pas exaltant comme une charge de cavalerie. C'est une descente en soi-même et j'ai encore des tas de choses à puiser là-dedans. » Désormais, l'Indochine ne le quitte plus. Pierre Schoenderfer a vécu à Dien Bien Phu un moment fondateur de son histoire personnelle. C'est là qu'il est devenu adulte, disait-il. De cette période, de ceux qu'il a vus mourir et envers lesquels il se sentait redevable, de sa propre mort qu'il a vue si proche à plusieurs reprises en captivité, Schoenderfer a toujours voulu rendre compte. Il devient photographe de presse, voyage beaucoup et au Maroc, il rencontre sa future épouse, Patricia Chauvel, fille de Jean Chauvel, ambassadeur à Londres, sœur de Jean-François Chauvel, le grand reporter des années 60, lui-même père de Patrick, actuel photoreporter. Pierre et Patricia, que l'on appelait Pat, auront trois enfants, Frédéric, réalisateur, Ludovic, acteur et monteur, et Amélie, auteur. Pat dit de lui, « Pierre, c'était un innocent. Il a tout attendu de la vie, il était très très joyeux. Mais parfois, il faisait des cauchemars, il se mettait à hurler, tout le monde se réveillait, il disait « Je suis happé par le fond ». Les mois de captivité au Vietnam le hantaient. Jean-Christophe Buisson, un journaliste ami, dit de lui « Il n'a jamais eu d'armes, ce n'était pas un chasseur, il était humaniste, attentif aux gens, il aurait pu être curé ou médecin, car c'était la petite misère des hommes, l'humanité qui l'intéressait. Il s'est fait souvent rejeter. Jeune, il disait « Je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie ». Quand il entendait la chanson de Brassens « Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat, qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid », il pleurait. Il est tombé amoureux du peuple vietnamien dont il se sentait proche par leur pudeur presque protestante. Pierre était un taiseux, il ne racontait pas ses sentiments. Les parpaillots ont une ligne directe avec Dieu. Frédéric, son fils, raconte « Vers 12 ans, je lui ai dit « Je veux faire le même métier que toi ». Il a dit « Tu le feras et mieux que moi ». Il était généreux, encourageant. Il était joyeux quand il tournait, avec l'esprit de groupe des tournages, la communauté, le sentiment d'être dans une bulle de paradis éphémère, même dans des conditions de tournage très dures. Avec une équipe, on n'est plus seul. « J'ai été son assistant, dit son fils toujours. Je suis devenu son ami. Je lui montrais mes films en premier. Il me conseillait avec bienveillance. » Alors donc, c'est en 1956 que Joseph Kessel, son idole, qu'il a rencontré à Hong Kong après sa libération, lui permet de réaliser en Afghanistan un documentaire romancé tiré d'un de ses livres « La passe du diable ». Il fait ensuite la connaissance du producteur Georges de Beauregard qui finance ses films suivants « Ramuncho » et « Pêcheur d'Islande », films tournés en pays bigoudin. C'est grâce à Patricia, son épouse, que Pierre a découvert la Bretagne, qu'il a passionnément aimée pour sa rudesse, son authenticité. Il a trouvé là sa terre d'adoption, d'enracinement. En 63, il publie son premier roman, la 317e section, inspiré de l'expérience indochinoise qui entra toute son œuvre. Il tire un film de ce livre qui sort en 65. Il devait d'ailleurs déclarer que ce n'était pas un vrai roman, mais déjà le scénario exact du film. À propos du film lui-même, Schoenderfer a souligné que ce n'était pas un film de guerre, mais que ce qui l'avait fasciné, c'était le cheminement vers la mort d'un groupe d'hommes pendant lesquels il traverse un certain nombre de vallées, de déserts et de mers de larmes. En 64, il réalise l'adaptation au cinéma de la 317e section avec Bruno Kremer et Jacques Perrin, image de Raoul Coutard. Il obtient le prix du scénario au Festival de Cannes. Dans un hommage à Bruno Kremer, Pierre Schoenderfer se souvient « 7 semaines de tournage au Cambodge, en pleine jungle, pendant la mousson, au bout du bout du bout du bout monde. Un film de pauvres pour parler d'une guerre de pauvres. » On couchait par terre sous un auvent, dans la boue, et il y avait ces abominables sangsues, l'odieux bourdonnement des moustiques. On n'avait rien à boire, sauf une caisse de bière du Tonkin qui était arrivée à dos d'éléphant dans la cahute de Pétrole, Pétroline et Pétrolette, un Chinois, sa femme et sa fille, qui tenait boutique, si l'on peut dire. Le stock de bière fut vite englouti. Il ne nous restait plus que de l'eau, l'eau de la rivière que l'on faisait bouillir pour éviter la dysenterie amibienne. Je t'empêchais de laver ta tenue de combat pour la vraisemblance et de te laver la figure pour accentuer les traces de fatigue de la longue marche. Je te faisais jeûner pour te donner cette gueule de loup maigre des soldats qui étaient dans ma mémoire. Oui, je t'en ai fait baver. Je t'ai même fait tirer à balles réelles, ce qui est très impressionnant, parce qu'elles coûtaient moins cher que les balles à blanc. Dans ces conditions, il n'y a pas de milieu. Soit on se déteste, soit on s'estime. C'est comme ça que nous sommes devenus amis. En 66, il tourne Objectif 500 millions. En 67, il passe 2 mois au Vietnam avec un caméraman et un ingénieur du son pour filmer des soldats américains sur le terrain, ce qui deviendra La section Anderson, film qui remporte l'Oscar du meilleur documentaire à Hollywood en 68 et de nombreuses distinction internationale. En 69, il publie un second roman, L'adieu au roi, qui lui vaut le prix Interallié. Le réalisateur américain John Milius portera le roman à l'écran avec Sean Connery, après s'en être inspiré pour coécrire le scénario d'Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. En 76, Pierre publie un nouveau roman, Le crabe tambour, qui obtient le grand prix du roman de l'Académie française et qu'il porte à l'écran l'année suivante grâce au concours de la Marine nationale. Ses interprètes sont Jean Rochefort, Jacques Dufilho, Claude Riche et Jacques Perrin, l'acteur de ses débuts, son alter ego de cinéma, qui est ici, qui nous fait l'honneur d'être ici. Jean Rochefort a déclaré « Schoendoerffer n'est pas un homme qui fait du prêt-à-porter, c'est un écrivain, un poète. Il a le désespoir à fleur de peau. » Le film reçoit le Grand Prix du cinéma français et 3 Césars, dont meilleure photographie à Raoul Coutard, qui raconte « Pendant le tournage, nous avons dû passer une nuit à bord d'un bateau de pêche, ce qui n'était pas prévu. L'embarcation n'offrait aucun confort. Nous avons donc laissé les meilleures places aux comédiens et l'équipe technique a fait avec ce qui restait. Pierre a dit « Si c'est moi le chef, c'est à moi de dormir sur le sol. » Il s'est enroulé dans son manteau et a passé la nuit ainsi. Voici quelques citations de son livre « Le crabe tambour ». L'éole bute contre une mer hachée, maniable, écrit l'enseigne au journal de bord, sous le brasillement de 100 000 étoiles et l'ombre épaisse des nuages. Un paquet d'embruns étincelants s'élève de l'étrave, aussitôt gelé, rabattu avec un crépitement de chevrotine sur la tôle. La coque vibre, toute la masse est prise d'un tremblement. L'éole roule comme trébuche un cheval, se redresse, retrouve peu à peu son long et souple galop dans la plaine noire et blanche et froide, mouvante, infinie. La plaine étrange, si triste qu'on entend parfois à travers les hurlements du vent, ferait croire que l'univers a une âme. Toujours le même vent, mais la nuit a changé. C'est un diamant noir étincelant. Rien ne donne le sentiment d'épouvante devant l'horreur et la splendeur de l'univers comme une tempête sous la minérale clarté du Grand Nord. L'aurore boréale palpite. Le bateau roule, roule et roule encore sous les formidables coups, accablés de glace, renaclant à s'enlever sur les lames. On se sent engourdi d'un insidieux désir de silence, de repos, de néant. J'ai été mis aux arrêts de rigueur pour être descendu à terre sans autorisation et avoir retardé l'appareillage du bateau, mais ça m'était égal. J'avais senti l'odeur des nuits de Colombo, des nuits d'Asie, pleines de promesses, de menaces, de démence. J'avais été enivré. Je ne pourrais jamais plus l'oublier, l'Asie. En 81, il publie « Là-haut ». En 82, il réalise « L'honneur d'un capitaine » et le film reçoit le prix de l'Académie du cinéma et le prix de Luc de l'Académie française. En 87, il tourne « Réminiscence » ou « La section Anderson » 20 ans après. En 88, il est élu ici à l'Académie des Beaux-Arts. En 89, il tourne « L'adieu au roi ». En 92, il réalise son film le plus ambitieux, Dien Bien Phu, tournée au Vietnam avec Donald Pleasence. Il dit « Je suis content et fier d'y avoir été, même s'il a fallu payer le prix de la captivité. Oh, je sais bien que ce n'est pas parce qu'on accepte de se faire tuer pour une cause que cette cause est juste, mais je m'en fous de la cause. Je vous parle des hommes. Je pourrais vous donner la liste de toutes les origines, de tous les rangs de l'armée. Il y en a, je ne sais pas, même pas leur nom. Je ne les ai vus qu'une fois, mais je sens encore leurs doigts sur mon cœur. Un seul type, bien, vraiment bien. Et ça change tout, un seul. Là-haut, il y en avait plein. » En 2003, il publie « L'aile du papillon ». En 2004, il tourne son dernier film dans le sud-est, dans le sud Finistère, pardon, film Testament, là-haut, un roi au-dessus des nuages, qui raconte ses épopées humaines, les guerres coloniales perdues et les soldats qui les ont faites. Voici quelques extraits de son livre « L'adieu au roi ». J'ai vraiment voulu beaucoup citer ces extraits de livres parce que c'est un très très grand écrivain aussi. « Je ne veux pas vous raconter ma guerre comme mon père m'a raconté la sienne. » Toutes ces guerres sont toujours tristement les mêmes. On a piétiné dans la boue, on a longtemps attendu, on a tiré, ils sont morts. C'est ça la guerre, quand on en revient. Ou encore, hommes vulnérables, de poussière et de sang, hommes nus des confins, serrés autour de vos feux, hommes de peu de poids dans la mémoire du monde, ô peuple libre des forêts oubliées, au-delà des grands fleuves rouges, au-delà des vallées perdues derrière les collines. Je me suis fait peur, parfois. Il ne faut pas descendre trop profond dans la nuit de soi-même. Il ne faut pas plonger dans les eaux troubles du marais maudit. Les monstres sont là, dessous, immobiles. La vie est un massacre de rêves, un cimetière de rêves piétinés, trahis, vendus, abandonnés, oubliés. Quel gâchis! Je ne verrai plus Bornéo, sa côte noire sur l'océan éblouissant. Plus jamais ce ciel de la mousson de nord-est, avec ces énormes nuages qui se boursouflent jusqu'à 30 000 pieds d'altitude. Je ne sentirai plus ce vent tiède, encore tout mouillé, d'avoir couru sur les lames de la mer de Chine, qui apporte avec lui une odeur de fange, d'humus, de bois pourrissant, mêlé d'un reste d'iode. Je ne remonterai plus les grands fleuves rouges, les pistes ensevelies dans les forêts, semblables à des cathédrales, vers les montagnes bleues. Ma quête est finie. Enfin, dans son livre là-haut, il dit, avec tant d'humour, « Mais que sait-on des morts ? Sinon, qu'un jour on leur ressemblera. » Pierre Schoenderfer s'éteint le 14 mars 2012, âgé de 83 ans. Le monde de Pierre de Schoenderfer était apparemment à l'opposé de mes convictions, de mes combats politiques, mais seulement apparemment. Car en fait, son cinéma et sa littérature m'ont touché profondément. Cette quête éternellement inassouvie d'un ailleurs, cette plaie ouverte de l'absence du père, cette sensibilité à la beauté de l'eau, de la lumière, de la forêt, des odeurs d'un pays, cette difficulté à vivre le quotidien quand il est privé de la grande exaltation de la fabrication d'une œuvre, ce respect de l'obéissance républicaine, cette fascination pour une communauté d'hommes prêts à se sacrifier pour des valeurs qui dépassent les individus, cette compassion, cette solidarité avec les petites gens, ceux qui patougent en godillot dans la gadoue, tout cela dans son œuvre m'a bouleversée. Je n'ai pu aujourd'hui qu'effleurer la richesse d'une création et d'une vie dont son épouse et ses enfants ici présents auraient encore tant à témoigner. Pour conclure, je dirais qu'il y a deux Schoenderfer. Le cinéaste et écrivain couvert de prix, l'académicien, président de notre compagnie, qui a laissé à tous un souvenir ému, le soldat honoré en grande pompe par une armée reconnaissante. Et puis il y a l'autre Schoenderfer, celui qui a souffert de la guerre à travers son père et sa mère, qui n'a peut-être pas d'orthographe, mais fait œuvre de poète remarquable, pupille de la nation, rejeté par la grande porte du cinéma officiel, mais qui revient par la fenêtre avec sa caméra, notre Kalachnikov à nous, cinéastes. Il y a le Schoenderfer qui filme pour témoigner de la souffrance des gens, mais joyeux, plein de vitalité quand il s'agissait de rassembler des équipes au bout du monde pour qu'elles le suivent dans sa création. Il y a aussi le Schoenderfer nostalgique. Il y a un homme, quoi, avec toutes ses magnifiques contradictions. Un homme éminemment aimable. C'est la grandeur de notre académie que de nous amener à célébrer chez les artistes qui nous ont précédés, au-delà de notre histoire personnelle, ce qu'il y a de mieux en eux, ce qui fait que leur œuvre ne sera pas oubliée parce qu'ils ont su transformer leur vie, aussi belle ou triste soit-elle, en des œuvres utiles à partager avec l'humanité.